bulletin que vous allez suivre est une rediffusion.
RFI.
Alors, on dit quoi ?
C'est alors on dit quoi sur RFI. Pendant l'heure qui suit, nous allons parler ensemble du fameux mariage. Le continent africain est notamment connu pour ses traditions fortes et son sens de la famille. Bien que le modèle de la famille ne revête pas que d'une seule forme, son point de départ lui reste bien souvent le même pour tous. Qui dit famille dit avant tout mariage. Et avec celui-ci vient la consécration du statut d'homme ou de femme dit respectable, responsable, ayant un rôle à jouer dans la société. Que l'on opte pour un mariage religieux, civil ou coutumier, de nombreuses étapes et de multiples protocoles sont à respecter avant, pendant et après le jour J. La dot pour certains, les fiançailles chez les autres, la demande officielle de la main d'une femme, la préparation de la cérémonie, la première nuit de noces scrutée par les tantes ou l'échange d'un premier repas de mille sur le lit conjugal sont autant d'éléments à prendre en compte pour les futurs mariés. Si ces moments sont inoubliables pour certains, ils ne font pas rêver tout le monde. Alors que représente aujourd'hui le mariage pour les jeunes ? Que sont-ils prêts à accepter ou au contraire à rejeter parmi les usages et coutumes qui l'entourent ? Quelle place occupe-t-il dans la société ? On répond et on débat tout de suite dans Alors on dit quoi ? Ndiaren, c'est parti.
Alors on dit quoi ? Avec Diaran Ndiaye.
Le mariage, je pense qu'on pourrait réaliser 10 émissions à ce sujet tellement il y a de nombreuses questions qui l'entourent aujourd'hui, en tout cas pour comprendre sa vision chez les jeunes. Je suis en ligne avec Sani Yaya Janjouna, sociologue nigérien. Bonjour Janjouna, je suis ravie de vous avoir avec nous ce samedi dans Alors on dit quoi sur RFI.
Bonjour madame.
Alors Janjouna, on parle de mariage, vous l'avez entendu à l'instant dans l'introduction. Dites-nous à quoi rime ce fameux mariage chez les jeunes au Niger.
Le mariage c'est en fait une sorte de contrat social qui lie justement deux individus ou un individu à plusieurs autres, particulièrement un homme avec une femme ou un homme avec plusieurs femmes, en tout cas particulièrement ici au Niger. Mais c'est aussi ce qu'il faut comprendre, une première instance qui permet justement de fonder une famille. Et on sait le rôle d'une famille et particulièrement la place qu'elle occupe dans la structure sociale.
Donc la question du statut est très importante, du statut marital est très importante au Niger.
Absolument. Le mariage confère à ceux qui l'ont contracté un statut qui leur permet justement d'avoir une certaine forme de position dans leur société. Parce que si vous êtes marié, vous êtes mieux considéré que quand vous êtes célibataire. La société a plus d'estime, a plus d'égard envers vous parce que là, c'est comme si vous avez accepté justement ces conditions. Vous avez accepté de jouer son rôle, votre rôle qu'elle attend de vous en tant que son élément participant justement par rapport à la cohésion de la société. Et le mariage participe à légitimer un certain nombre d'actes qui fondent justement l'expression de cette société.
Et Janjouna, dites-nous, est-ce qu'il y a eu une certaine évolution sur cette question du mariage ? Est-ce qu'avant c'était plus important qu'aujourd'hui ou au contraire, ce statut, cette importance du mariage, cette place du mariage dans notre société est toujours importante ?
Il y a une certaine forme d'évolution. Il a tendance, le mariage, à devenir beaucoup plus personnalisé chez les jeunes qu'autrefois. Avant, c'était les parents qui avaient une véritable emprise sur les jeunes, sur leurs enfants, au point où c'est à eux de faire le choix. C'était donc une manière de dire des mariages tout à fait arrangés entre les familles. Mais de nos jours, ce sont les jeunes qui, particulièrement eux-mêmes, qui décident de leur choix, de l'âge de leur mariage, de quand ça va se passer et avec qui et dans quelle famille. Alors qu'avant, il y avait les parents qui avaient une certaine forme d'emprise sur leurs enfants. Mais de nos jours, ces derniers sont devenus de plus en plus libres dans leur choix au regard de la profession qu'ils exercent. Parce que maintenant, ils sont devenus, souvent, ce sont des jeunes qui ont un emploi, qui ont un salaire. C'est avec leurs propres moyens qu'ils vont se marier. Alors qu'avant, c'était les parents qui les mariaient. Et du moment où c'était les parents qui avaient leurs moyens, qui mettaient leurs moyens à la disposition, et les choisir.
Le rapport de force a changé finalement.
A changé absolument. Rapport de force a changé.
Jean-Jonas, ce que je vous propose, c'est d'écouter ce reportage pour voir un peu comment le mariage est perçu, non pas au Niger, mais cette fois au Burkina Faso, avec, on le connaît, hein, cette robe somptueuse, ce voile perlé, des hôtesses, des hôtes, chic, choc, un parvis de fleurs, une entrée en musique et toute la famille et les amis qui sont là. Le mariage est certainement le plus beau jour de notre vie et le rêve de nombreux jeunes, mais pour en arriver là, il y a des étapes à franchir. Reportage de Rose, notre correspondante au Burkina Faso. On l'écoute, puis on réagira ensemble, Jean-Jonas.
Maman. Linda Christelle est une jeune femme mariée de 29 ans. Sourire aux lèvres, la jeune dame nous raconte les prémices de son histoire d'amour.
Mon mari et moi, quand on s'est connus, il a décidé de me demander en mariage. Les parents nous ont dit d'aller nous présenter chez les différents tontons et tantes. Après cela, mon mari a coordonné avec mon oncle, dont je suis à la charge. Il s'appelait pour pouvoir coordonner. Il lui a dit à la procédure comment ça va se passer, de quoi est constituée la dot. Parce que chez nous, il faut forcément aller au village. Et ce sont mes oncles qui ont décidé de la date. C'est chez la femme qu'on organise le mariage traditionnel, les fiançailles. Le jour venu, mon mari et son équipe, ses frères et soeurs ont quitté Ouaga pour arriver chez moi. C'est à 200 km, on peut dire. Mes oncles du village les ont reçus. Ils ont posé les questions aux gens de la famille de mon mari pour savoir vraiment s'ils tiennent à me prendre pour épouse. Et lorsque toutes leurs réponses étaient oui, on leur a expliqué qu'ils tiennent vraiment à leur fille. S'ils leur donnent leur fille, il faut vraiment qu'ils prennent soin de leur fille. Ils ont dit ok, il n'y a pas de souci. Donc ils ont commencé les procédures traditionnelles. Après cela, on m'appelle pour demander mon avis. Est-ce que je veux ? Et lorsque j'ai dit oui, ils ont dit ok, c'est bon, nous sommes mariés et que, en tout cas, à partir de maintenant, on peut considérer que je suis sa femme. Dès qu'on a donné les dots, les parents ont reçu, tu es la femme de la personne. Et après cela, on a commencé maintenant à préparer le mariage civil.
Mère de deux enfants et épouse, Linda est aujourd'hui fière d'avoir franchi ces différentes étapes de la vie. Des étapes que Dr. Georges Rwamba, anthropologue et enseignant à l'université Joseph Kizerbo, trouve normal.
Le mariage demeure un moment de transition. Le passage, j'allais dire, de la jeunesse insouciante au statut d'adulte. Et par conséquent, c'est comme une forme de maturation de l'homme dans la société. Et le mariage aussi, c'est un projet nataliste. Ça veut dire, au cœur du mariage, il y a la reproduction qui est là. Ce qui suppose que pour les uns et pour certains, les autres, il y a un âge donné à partir duquel, si tu n'es pas marié, ça fait une pression pour les jeunes filles, une pression aussi pour les hommes.
Cette pression sociale, Oumouna Sogné, 27 ans, couturière en pleine ville de la capitale burkinabé, l'a subie. Bonjour Oumouna.
Oui, bonjour, bonne arrivée, comment vous allez?
Oui, ça va bien, et ici, tout va bien? Le travail, ça va?
Oui, ça va, on ne se plaint pas, grâce à Dieu. À ce temps, toujours pas mariée. D'autres ont l'impression de dire que nous, les jeunes filles, on choisit les maris, on ne veut pas se marier. Pourtant, on oublie que tout, c'est la volonté de Dieu, quoi. Et d'autres pensent aussi qu'on est là à faire la belle vie parce qu'on ne veut pas se marier. Pourtant, ce n'est pas le cas. Nous aussi, on aimerait un jour être dans le foyer, vivre le bonheur que certaines vivent déjà.
Mais qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Est-ce que vous n'avez pas encore trouvé l'homme?
Même si on a trouvé l'homme, vu que nous sommes les femmes, on ne peut pas mettre la pression à quelqu'un de nous marier. Chacun a sa vision.
Comme Oumouna, certaines jeunes filles de la capitale que nous avons interrogées disent subir la pression de la société du fait de leur âge qui serait avancé. Cette question d'être mariée ou pas à un certain âge chez les jeunes au Burkina Faso reste d'actualité. Malheureusement, des jeunes célibataires sont stigmatisés du fait de leur statut matrimonial. Une stigmatisation plus présente chez les jeunes filles.
Maman veut voir sa fille se marier, fermer la bouche de tout le quartier.
Un statut marital qui est aussi à la une du Niger. Jean-Jona, est-ce que vous avez constaté des similarités avec ce que l'on vient d'entendre au Burkina Faso et ce que vous voyez sur le terrain au Niger?
On peut estimer que la même situation, et non seulement que les sociétés sont proches l'une de l'autre avec le Burkina Faso, mais aussi c'est un phénomène qui est observable autant en Afrique que dans le reste du monde. En fait, c'est comme si on a configuré la société entre il y a ce qui est permis et ce qui est interdit. Et le fait d'être marié renvoie dans ce qui est permis, ce qui est autorisé en fait par la société. Et par conséquent, on se trouve dans ce qui est légitimé, accepté et encouragé en un mot. Et de l'autre côté, lorsqu'on est célibataire, on estime comme quelque part, on attise la personne, on la stigmatise parce qu'on pense que c'est un choix personnel de ne pas vouloir justement se marier et s'intégrer dans le légitime, en fait dans le permis et se faire fixer, accepter d'être toujours dans l'interdit, dans le célibat et ne pas contribuer justement à jouer son rôle en tant qu'individu, en tant qu'acteur social, et qui pour participer en fait à la légitimation de ce que la société a consenti de meilleur pour elle, pour assurer justement sa pérennité.
Oui, c'est très important.
C'est la raison pour laquelle des fois on stigmatise les célibataires comme si c'est un choix personnel. Or souvent, il y a le mécanisme du fonctionnement de la société qui fait en sorte que les individus sont plutôt avis par la société plutôt qu'ils agissent eux-mêmes souvent dedans. Et c'est parce qu'il y a une certaine forme de suprématie de cette société sur leur comportement, au point où, par hasard, ils se retrouvent ainsi. C'est par exemple le choix d'une prostituée ou d'un quelqu'un qui choisit la prostitution. Et on ne peut pas le condamner tout d'office pensant que c'est un choix personnel. Souvent, eux-mêmes, les prostituées, ils savent qu'ils sont mal vus par la société, mais ils se demandent comment se fait-il qu'ils se sont retrouvés dans cette situation. Et même, ils n'arrivent pas à l'expliquer. C'est en fait un peu souvent les mêmes problèmes qu'on peut observer chez un célibataire. Il se retrouve dans cette situation, pris dans un tourbillon du fonctionnement de la société au point où il se trouve isolé. Et voilà que les autres ont des partenaires qui les complètent, qui...
Oui, c'est très important cette question de la pression sociale, effectivement. On va d'ailleurs même uniquement en parler la semaine prochaine dans une émission consacrée à cette pression sociale autour du célibat et du mariage qui n'a pas lieu pour certains. Alors c'est vrai qu'on a abordé cette question un petit peu de la pression sociale dans le reportage en journal, mais il y a aussi quelque chose d'intéressant qui a été abordé par Rose. Ce sont ces étapes qui sont au préalable organisées comme l'importance et la place des parents pour coordonner un petit peu les deux familles, parce que il faut le rappeler, dans nos sociétés, l'union d'un couple, c'est aussi l'union de deux familles.
Absolument. C'est surtout aussi pour montrer à l'individu qu'il ne s'appartient pas, qu'il appartient à sa famille et que la société, comme par procuration, a donné à sa famille sa propre garde. Et c'est pourquoi ce n'est pas une question personnelle, c'est une question de famille. Mm-hmm. Étant entendu encore que chaque famille va vouloir s'unir à une autre famille, il va sans dire que l'individu, lui, son choix seul ne va pas suffire. Il va falloir justement requérir la présence ou le choix, le témoignage de la famille à laquelle on appartient, parce que c'est l'union des deux familles. Et c'est pourquoi le choix personnel souvent n'est pas véritablement accepté. Mm-hmm. Et la famille se dit qu'elle a un droit de regard sur le choix des individus, sur le choix de leurs enfants par rapport à leurs conjoints. Et ça, entendu que eux-mêmes, c'est comme s'ils vont les talonner, les accompagner pour qu'ils aient leur place dans la société en termes de statut.
Mais oui, tout à l'heure, Jean-Jona, vous mentionnez d'ailleurs, on parlait tout à l'heure au début d'émission de cette émancipation, le choix des parents était un peu plus ancré avant, on va dire, dans la société. Aujourd'hui, il l'est moins, ce pouvoir des parents, mais il existe toujours, et je dirais même qu'il est même très présent. Ils doivent donner leur aval avant de donner leur fille ou leur garçon en mariage.
Absolument. Il y a un droit de regard par rapport à chaque famille en ce qui concerne ce devoir-là. Pourquoi ? Parce que tout simplement, l'individu ne s'appartient pas, mais il a été aussi mis au monde par une famille. Il s'est vu entretenir tout ça, grandir, en fin de compte, pour qu'il s'intègre dans une société. Et lorsqu'il s'intègre, il a le devoir justement de rendre compte à sa famille. Et c'est la raison pour laquelle sa famille estime que ce processus-là, elle doit l'accompagner jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à l'insérer profondément dans le tissu social. Et c'est la raison pour laquelle souvent cette famille ne va pas le lâcher, elle va le prendre. C'est elle qui décide de son mariage, c'est elle qui va l'accompagner dans son mariage jusqu'à ce qu'il devienne à un âge mûr. Et une fois qu'il est devenu
et encore, mûr, parfois, les ingérences des parents continuent même après le mariage et même après des années de mariage. Donc, on l'a vu. Jean Jouna, je vous propose de prendre en ligne des auditeurs et particulièrement une auditrice qui nous appelle pour participer. Alors, on dit quoi ? Il s'agit de Naomi, elle a 26 ans. C'est une étudiante tchadienne en géographie qui se trouve au Cameroun, précisément à l'extrême nord du pays, à Maroua. Naomi, bonjour.
Bonjour.
Naomi, alors vous êtes mariée depuis 10 ans. Vous avez sauté le pas très jeune, disons. Alors expliquez-nous pourquoi.
Bonjour d'abord aux auditeurs. Je dirais que je me suis mariée très très jeune, comme je le disais. Je me suis mariée par amour, pas que j'étais forcée. Non, j'étais juste amoureuse que de rester chez les parents, mais qui étaient j'ai préféré moi. Le mari est resté dans un foyer.
Qu'entendez-vous par débauche, Naomi ? Qu'est-ce que vous entendez par là ?
Selon moi, c'est le fait d'être chez les parents, envier les garçons, envie d'être avec les garçons et sortir. On sait que si à l'âge de la puberté, les gens commencent à sortir les garçons, on ne va pas s'arrêter. Un seul garçon risquera de prendre peut-être 3 à 4 garçons. Que de mener cette vie-là, moi, j'ai préféré de prendre un seul homme et rester avec lui.
Pour éviter la tentation, on dirait.
Oui, pour éviter la tentation.
Et Naomi, 10 ans de mariage et vous avez 3 enfants. Est-ce que leur arrivée a changé quelque chose au sein de votre couple ? J'entends par là, est-ce que ça a plutôt fortifié votre union ou au contraire un petit peu compliqué les choses ?
Oui, ça a fortifié. Côté amour, ça a quand même fortifié parce que mon mari aime trop les enfants et à chaque fois que je l'annonce une nouvelle grossesse, l'amour se fortifie de plus en plus. Mais côté financier, ça a quand même un peu dérangé parce que vous savez qu'aujourd'hui, les enfants, au fur et à mesure que les enfants grandissent et que nous sommes en Afrique, l'éducation, ce n'est pas facile et les soins non plus. Donc, côté financier, quand même, ça a un peu dérangé. Entre-temps, j'étais encore élève, je n'avais pas le bac, c'était un peu compliqué, mais aujourd'hui je suis à l'université, en master 1, je peux faire des activités dans le secteur informel pour pouvoir aider mon mari.
Ah, vous parlez des complications au niveau financier, c'était un petit peu difficile pendant un moment de votre vie.
Oui.
Et comment se passe votre mariage globalement ? Est-ce que vous vous sentez heureuse aujourd'hui, Naomi ?
Oui, sans le mentir, je suis heureuse. J'aime l'homme que j'ai connu il y a 10 ans. Je l'aime de la même manière que je l'ai aimé entre-temps.
C'est beau de l'entendre. Naomi, en quelques mots, qu'est-ce que vous recommandez aux jeunes qui souhaitent se marier aujourd'hui ?
Bon, aux jeunes que je souhaite, qui souhaitent se marier, je dirais que entre-temps, jadis, le mariage était une obligation pour les jeunes. Mais de nos jours, surtout pour les filles. Mais de nos jours, je dirais que le mariage n'est pas une obligation, c'est un choix. On a constaté que les femmes avancent beaucoup, de plus en plus, beaucoup mieux dans la société aujourd'hui. Et je conseillerais aux filles d'abord de se chercher, de pouvoir se mettre à l'aise pour pouvoir maintenant se marier. On ne peut pas se marier et aller rester chez un homme, compter uniquement sur l'aide de cet homme.
Bien au contraire, il faut être autonome.
C'est l'autonomie. Il faut d'abord être autonome financièrement surtout. Parce que tu ne peux pas continuer. Tu ne peux pas aller dans un mariage, rester dire que tu ne peux pas faire l'enfant, ça ne te dira pas. Et une fois que tu as déjà l'enfant, il faut que tu sois quand même capable, quand l'enfant demandera peut-être un biscuit de 500, tu sois capable d'arriver
les temps de soutenir tout ça. Merci infiniment, Naomi, pour votre témoignage. Merci d'avoir appelé. Et bonjour à tous nos auditeurs qui se trouvent au Cameroun, mais aussi au Tchad qui nous écoutent.
Alors, on dit quoi ?
Quelle est aujourd'hui la vision et les étapes du mariage chez les jeunes au Sahel ? C'est la question qui cristallise le débat ce samedi dans Alors, on dit quoi ? Il est aussi question de défense des droits des femmes durant ce mariage, de la place des religieux sur cette question, mais aussi de la pression sociale qui accompagne cette union. Mais d'abord, on écoute José Mamati.
Ma baby, pas de stress. Toi et moi, c'est danger. Ma baby, faut pas te vexer. C'est déjà isolé. Ils veulent nous voir séparés pour pouvoir se marrer. Mais t'inquiète, on va les bêcher. Ils seront humiliés. Quand tu trouves le bon, tu ne vas plus rien. Non, j'ai trouvé ma moitié. C'est pas les mamies, les lotos, les kéchak et chanon. Pour nous de se gérer.
Et nous continuons aujourd'hui de donner la parole à nos auditeurs et auditrices qui sont nombreuses aujourd'hui, j'en suis ravie. Laetitia Bassolet, bonjour, merci d'être avec nous dans Alors on dit quoi ?
Bonjour,
Lucilla,
ça va bien,
je vous. Ah, ça va très bien, Laetitia. Vous, vous êtes très engagée dans les droits des filles et vous êtes présidente de l'association burkinabé Young Women Initiative for Development à Ouagadougou, militante pour les droits des femmes et également blogueuse. Un beau parcours, Laetitia. Bravo à vous.
Merci.
Et Laetitia, vous êtes au Burkina et vous aidez les femmes sur de nombreux volets de leurs droits. Pouvez-vous nous dire lesquels lorsqu'il s'agit notamment de mariage?
Au Burkina Faso, nous militons pour les droits de la femme et surtout nous aidons les jeunes filles dans les questions du mariage forcé et précoce. Et actuellement, nous avons une forte communauté de déplacés internes dus au terrorisme, chose qui ne facilite pas les conditions de vie des jeunes femmes et tout, et qui booste négativement les cas de mariage forcé. Du coup, c'est très difficile pour nous d'intervenir, en fait, souvent.
Et Laetitia, la question du mariage nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Est-ce qu'il existe des chiffres sur la proportion, voire même l'âge du mariage des femmes au Burkina ?
Oui, exactement. Selon l'Institut national de statistique démographique au Burkina Faso, plus de 63% des filles burkinabées sont mariées avant l'âge de 18 ans.
Ah oui, donc c'est très précoce finalement. De nombreux mariages de jeunes continuent en dépit de la volonté de la jeune fille.
Exactement, c'est toujours comme ça. Puisque souvent, la plupart du temps, ça vient des parents. Et je suis très heureuse parce que Naomi du Cameroun vient tout de suite de le poser.
Oui.
Il y a des parents pour éviter de voir les jeunes filles côtoyer beaucoup de mecs. En fait, elle préfère les donner en mariage avant l'âge.
En Afrique, effectivement, on a cette peur, entre guillemets, de voir sa fille tomber enceinte avant l'heure ou alors son enfant enfanté ailleurs et multiplier les partenaires. Donc, les parents se disent souvent, effectivement, qu'il faut marier vite l'enfant. Et Laetitia, autre point que j'aimerais aborder avec vous, ce sont ces nombreux messages que vous recevez à travers les réseaux sociaux. Est-ce que les jeunes filles sont nombreuses à vous parler de problèmes ou à vous demander des conseils autour du mariage?
Oui, ça arrive parce que très souvent nous sommes contactées sur les réseaux sociaux parce qu'elles ont besoin d'aide et du coup nous sommes obligés de contacter nos partenaires pour pouvoir intervenir.
Et racontez-nous un récent cas de mariage forcé que vous avez eu à traiter, par exemple, Laetitia.
Ok, le récent cas de mariage forcé date de 2 semaines. Et c'était une jeune fille dans la région du Sahel qui a été donnée en mariage à l'âge de 17 ans qui nous a contactés parce qu'elle en avait marre en fait. Quand on l'a donnée en mariage, elle était suivie de partout par 4 personnes qui la suivaient pour éviter qu'elle ne fuque. Et là, elle n'avait pas de moyen de s'en sortir. Du coup, elle a voulu un téléphone, on ne sait pas à qui pour pouvoir nous contacter. On n'a pas pu la joindre toute la journée parce qu'elle se cachait. Le lendemain, elle nous avait fait signe avec un autre numéro pour nous expliquer où elle était logée parce qu'elle n'avait aucune idée du quartier dans lequel elle était, de la zone et tout. Elle était juste dans une maison où elle était sous surveillance. Et là, elle nous a expliqué, on a été étonnés de voir que le monsieur en question, qui était son mari, était un intellectuel qui travaillait pour le compte d'une mine d'or de la place. Et nous avons immédiatement saisi le procureur.
Quelle a été la réaction du procureur, Laetitia?
Ce n'était pas sa première fois, en fait, qu'il nous a dit qu'il a affaire à ce genre de cas pour la plupart du temps, en fait. Donc, il a immédiatement réagi, il a appelé l'action sociale et les 2 familles qui se sont réunies. Et par fini, chose malheureuse, elle est repartie dans ce mariage forcé parce qu'elle avait peur du rejet de la famille.
Autre pression cette fois, c'est que les parents rejettent finalement leur enfant après avoir divorcé, c'est cela?
Exactement, c'est ça. Pour préserver l'honneur, la fille est obligée de supporter.
C'est très difficile comme situation. Aujourd'hui, est-ce que vous avez des nouvelles de cette jeune fille qui vous a contacté, Laetitia?
Elle est mariée, elle dit qu'elle est enceinte. Elle est enceinte d'un bébé de 6 mois maintenant. Donc, sûrement, quand elle nous a contacté, elle était enceinte, mais elle ne savait même pas d'abord.
Difficile situation. Laetitia, j'aimerais vous garder en ligne et prendre une autre auditrice qui se trouve au Mali. Il s'agit de Maïmouna Dembélé. Nous allons un petit peu voir ce qui se passe du côté du Mali sur cette question, puisque Maïmouna est également une féministe et défenseur des droits de l'homme. Maïmouna Dembélé, bonjour, bienvenue.
Bonjour.
Maïmouna, vous avez écouté à l'instant le témoignage de Laetitia au Burkina Faso. Est-ce qu'il y a des points intéressants à soulever, mis en avant au Burkina Faso, notamment l'aide apportée à cette jeune fille dont on vient d'entendre parler, qui a été mariée de force et qui est coincée dans son mariage?
En fait, c'est un peu les mêmes cas que nous avons au Mali. Nous recevons également des demandes d'aide de jeunes femmes qui se retrouvent dans la même situation que le Burkina Faso. Et je pense que ce qui est intéressant dans le témoignage de Laetitia, c'est que on n'a pas vraiment beaucoup de mécanismes de protection de ces jeunes femmes à partir du moment où le mariage est déjà célébré. On peut aller voir la justice, on peut aller voir les services sociaux, mais le plus souvent, il n'y a pas vraiment de dénouement parce que les personnes ne veulent pas vraiment perdre le contact avec leur famille parce qu'il y a toutes ces questions d'être régnée ou pas. Mais c'est aussi que même si on arrive à enlever ces personnes des mariages, quelle protection nous avons, où est-ce que nous allons les mettre et qu'est-ce que ces personnes deviennent si les familles n'acceptent pas.
Parce que cette aide, finalement, c'est à court terme, l'hébergement dans un foyer d'urgence ou une structure d'accueil, ça ne peut pas régler le problème en soi.
Ça ne peut pas régler le problème et surtout, ce n'est pas accessible partout. Dans les centres urbains, on peut avoir des foyers d'hébergement d'urgence et tout, mais en milieu rural, par exemple, c'est pas quelque chose qui est fréquent, qui existe. Et donc, au Mali, on essaie vraiment de travailler sur la question de la prévention pour que les mariages ne soient pas célébrés. Mais également, les organisations de plus en plus travaillent à la médiation familiale pour convaincre le mari envie même de laisser la femme partir, mm-hmm. et aussi convaincre la famille de recevoir l'enfant, de la reprendre.
Maïmouna, que nous dit la loi au Mali sur cette question du mariage ? À quel âge peut-on se marier ?
Le code de la personne et de la famille du Mali fixe l'âge du mariage à 18 ans pour le jeune homme, mm-hmm. et à 16 ans pour la jeune femme. Et il y a la possibilité dans certaines situations que la jeune femme soit donnée en mariage à 15 ans lorsque ses parents en font la demande et que les autorités compétentes l'autorisent.
Mm-hmm. Maïmouna, vous vivez dans un pays musulman. Est-ce que la pression des religieux pèse sur cette question de l'union?
Disons que c'est pas vraiment une pression juste religieuse, mais c'est une pression sociale qui existe. Parce qu'au Mali, on a un modèle de réussite sociale, je pense, dans d'autres pays aussi. Et dans ce modèle de réussite sociale, il faut être marié. Il faut être marié, c'est comme une réalisation qu'il faut, par laquelle il faut obligatoirement passé. Et la pression religieuse vient, par exemple, sur la question de l'âge. On donne, par exemple, des enfants, des mineurs en mariage, parce qu'on a peur, comme vous le disiez tantôt, que ces personnes ne se retrouvent dans d'autres situations que les personnes considèrent comme étant des péchés. Et on a, par moments, une très mauvaise interprétation de la religion qui pousse les gens à donner des enfants en mariage à l'âge de 12 ans, parfois à l'âge de 13 ans. Et aussi au Mali, la pression religieuse intervient là où cela influence beaucoup le cadre légal. Parce que l'âge de 16 ans, marier des filles à moins de 18 ans, c'est quelque chose qui est soutenu en fait par des personnes qui sont religieuses et qui sont très influents au Mali. Donc il y a une pression religieuse qui est là,
Maïmouna,
mais surtout par rapport à l'âge.
Par rapport à l'âge également. Maïmouna, vous avez travaillé sur un projet sur le mariage des enfants, notamment à Tombouctou, Mopti et Ségou au Mali. Qu'est-ce qui est ressorti du terrain ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont finalement surpris, vous qui êtes jeune et qui avez également analysé cette question du mariage du point de vue des jeunes ?
Ben, moi, ce que j'ai le plus retenu, c'est d'abord que les mariages sont célébrés pas parce que les gens le veulent finalement ou parce qu'on est à la recherche d'un bonheur, d'un équilibre ou d'un bien-être, mais plus parce que les filles surtout, et parfois les garçons sont considérés comme des projets de famille, des projets de société, et à un moment, il faut exécuter ces projets-là. Et donc, tu es donné un mariage, ça peut être un contrat entre deux familles, un contrat entre ta famille et une personne, sans qu'on ne demande finalement ton consentement. Et on doit juste être marié. Et être marié, ça veut dire être heureux. Ne plus poser de questions, juste être heureux parce qu'on a été donné en mariage. L'autre chose, c'est aussi que les communautés, en fait, veulent que les enfants partent en mariage parce que c'est un moyen, en fait, pour elles de se mettre à l'abri de certaines situations, mais aussi d'éviter ce qu'on appelle l'éducation sexuelle. Parce qu'en envoyant des enfants au mariage, on n'a plus cette pression de lui dire c'est quoi la sexualité, comment se protéger, comment par exemple...
C'est finalement se dédouaner de son rôle, c'est un petit peu ça.
C'est finalement se dédouaner de son rôle, et les gens amènent aussi des questions de religion, mais aussi c'est parfois des questions de ressources, parce qu'une fille qu'on envoie en mariage et qui part avec un de ses petits frères ou une de ses petites sœurs, c'est des bouches de moins à nourrir dans la famille. Mais ce que j'ai aussi constaté, c'est qu'il y a beaucoup de mariages célébrés par les officiers de culte, par exemple, les imams et tout, mais qui ne connaissent pas la loi, qui ne savent pas, qui ne doivent pas donner des gens en mariage sans leur consentement, qui ne connaissent pas l'âge du mariage. Alors, c'est pas parfait, 16 ans, pas du tout, hein, loin de là, mais ce sera déjà un début que ces religieux sachent qu'ils ne peuvent pas donner des personnes de moins de 16 ans en mariage, et ils disent ne pas le savoir. Ils disent
oui, donc il faut poursuivre la sensibilisation auprès des religieux et auprès des parents, et en particulier aussi des enfants, je l'imagine. Une dernière question pour vous, Maïmouna, vous êtes célibataire, est-ce que vous rêvez de vous marier, vous avez 30 ans?
Je compte, je suis célibataire et je vais bien.
Alors, et vous allez bien.
Exactement.
On va répandre ce message parce que pour certains, en tout cas, dans certaines sociétés, 30 ans, c'est beaucoup trop tard pour se marier. Alors, on leur dit qu'on peut avoir 30 ans et être bien dans sa tête et dans son corps sans être marié.
Exactement.
Merci infiniment, Maïmouna, pour votre éclairage. Et merci également à Laetitia qui était en ligne avec nous depuis le Burkina et le Mali. Dans quelques instants, on va parler de la fameuse dot très courante chez nous. On écoute d'abord Tsi Panchak Amin featuring Kameni et Stanil.
Butterfly, you fly, but you know we touch the sky. Do your own lift, the rest to God. Does any man get a level? You say, sure, you trouver, you support it. Repose and begging, come on. Pray for me. Papa, give me money, oh. Pray for me. Blessings for your papa. Amen. Amen. Blessings for your mommy, oh. Amen. Blessings for your family. Amen.
My people who na put me down, so silly, yo. Back to na no bring me witch. I be so far picking, na no fi die. I who God don't bless, no man can trust. Make una live my life alone, jealousy. I, you know the waka. Yeah, say, mommy, yeah. Prayer for your picking, oh, I'm yo. Oh. Say, papa, prayer for your picking, oh, I'm yo. Oh. El Chaco, sing for them, mommy. I'm
you,
I'm me. Coming
up
on this one again, I.
Blessings for your papa, I'm in. I'm in. Blessings for your mommy, oh, I'm in. Blessings for your family.
Tsi Panchak Amin featuring Kameni et Stanley Eno.
Alors on dit quoi?
Le mariage, c'est une chose, mais il y a aussi les protocoles qui vont avec. Avant cette étape, la controverse n'en finit pas autour de la dot en Afrique. La dot traditionnelle n'est plus ce qu'elle était sur le continent. Considérée dans le passé comme sacrée et symbolique, elle est devenue au fil des années le prix de la mariée. Les tarifs atteignent parfois des sommets insoupçonnés. Les plus aisés dépensent des fortunes et les pauvres veulent en faire autant. Illustration au Tchad dans ce reportage de Junior, notre correspondant sur place.
Elle précède le mariage entre des familles, pour ne pas dire entre une femme et un homme. La dot ou le prix de la fiancée qui se faisait jadis avec des objets symboliques a aujourd'hui changé de forme et devient une occasion de démonstration des capacités financières, comme l'explique le sociologue Mbete Félix.
Dans les temps anciens, la dot avait une valeur symbolique, purement sociétale. Ça permet de sceller les liens de mariage entre deux familles. Aujourd'hui, elle le demeure plus ou moins, mais la valeur monétaire a changé. Avant, la monnaie était de couteaux de jeu, de courrier, mais aujourd'hui, c'est des billets de CFA. Et on se rend compte de plus en plus de jeunes cadres qui ont des moyens, économisent 1 an, 2 ans, 3 ans, rien que pour investir ou dépenser en une journée de cérémonie de dot. Et là, ça n'a rien à voir avec ce qui se faisait dans la tradition.
Une situation qui amène même Thie Julienne, étudiante de 22 ans, à parler de la cherté de la dot. Pour elle, la faute revient aux parents des filles qui exigent des grosses sommes aux prétendants de ces dernières. Pour faire revenir les parents à la raison, elle propose ceci.
Toi, une femme, tu aimes ton partenaire et ton partenaire t'aime. Pour mieux être ensemble, là, il faut que le gars t'engrosse et puis tu pars chez lui. Ça, c'est simple. Parce que si toi, tu veux réellement le moyen de marier et que les parents t'empêchent. Et l'homme, ton partenaire en question, n'a pas un moyen de t'épouser. Tôt ou tard, il va t'abandonner parce qu'il n'a pas ce moyen-là pour aller verser la dot. Donc, le mieux est que si, par exemple, moi, j'aime mon partenaire, je viens, il m'enceinte, puis je le regagne. La dot, on va régler après.
Cette option, Madina Guérina ne la partage pas. Pour ce jeune homme, malgré le coût trop élevé de la dot, l'homme doit faire preuve de dignité pour honorer la femme qu'il aime.
Moi, je ne suis pas d'accord. Il faut d'abord apporter quelque chose, même si ce n'est pas un truc conséquent, il faut apporter quelque chose comme symbole à la famille de la fille avant que la fille ne te regagne. Mais l'enceinte comme ça, ça déshonore d'abord la fille. La fille ne trouve pas son honneur là-dedans d'abord. Et toi, un homme, tu ne te sens pas en tant qu'un homme. Tu ne peux pas rester avec tes amis et te dire à tes amis que j'ai doté ma femme, j'ai marié ma femme. Ça ne porte pas ton honneur.
Honneur ou déshonneur, il est clair que la jeunesse ne se retrouve pas face à l'excessivité du coût de la dot. Malheureusement au Tchad, à défaut de l'adoption d'un code de famille, les jeunes doivent encore s'y porter.
Jean Jouna, nous sommes toujours en ligne avec vous. Comment en est-on arrivé à cette exagération partout en Afrique, alors que cette dot était juste symbolique? Et dans la religion, par exemple, musulmane, c'était obligatoire, mais c'est une somme juste symbolique. Comment en est-on arrivé là, selon vous?
Il y a eu un véritable changement de paradigme. Avant, on pensait que la femme, la fille, par exemple, elle va aimer l'homme le plus courageux, le musclé, le meilleur danseur, le meilleur cultivateur, le meilleur dans les domaines symboliquement. Au point où la valeur marchande en termes de monnaie n'était pas véritablement appréciée. Et comme l'a si bien notifié le sociologue tchadien tout à l'heure, il s'agissait symboliquement de donner quelque chose en termes d'interprétation qui va servir justement de dot et sur lequel vont convenir les deux familles. Mais en même temps, de nos jours, les choses ont changé. Avec le choc culturel, avec d'autres contacts de culture, mais en même temps, surtout, le développement technologique. Et il y a eu une poussée rapide, en fait, de la croissance des besoins des gens. Au point où maintenant, les familles ont très besoin de beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce qui a remplacé la force, le courage de l'individu? C'est l'argent de nos jours. Et de telle sorte que, dans tous les cas, pour mieux comprendre cette situation, il faut la positionner dans le sens où les gens cherchent la femme, par exemple, cherchent la sécurité. Autrefois, c'est sur le musclé qui l'assure. De nos jours,
c'est plutôt l'aspect pékinien
qui remplace justement les muscles et qui garantit justement cette sécurité.
Jean Jouna, est-ce qu'il y a un minimum aujourd'hui à donner lors de la dot pour un mariage au Niger?
Il y a un minimum, et par exemple, qui est fixé. Et l'ostentation, certes, qui en découle par la suite au niveau des noces, c'est ça qui vient presque tout détruire en un mot. L'État, par exemple, au Niger, a fixé le coût de la dot d'une jeune fille à 50 000 francs CFA.
C'est une somme raisonnable pour vous?
Absolument raisonnable et supportable par tous. Mais c'est que pour une divorcée, c'est 25 000 francs CFA. Et d'ailleurs,
donc une divorcée vaut moins qu'une femme qui n'a jamais été mariée, c'est normal.
En fait, les gens estiment que du moment où elle a épousé quelqu'un et qu'elle revient maintenant pour faciliter en fait l'accès, je dirais, entre griffes, à d'autres maintenant.
Elle est dévalorisée finalement, ce qui est très dommage.
Finalement, socialement, c'est en fait un peu cette tendance qui fait en sorte que, puisque ce n'est pas véritablement comparable selon les uns et les autres entre une divorcée et une jeune fille. Mais cette vision, en fait, est relative, hein, parce que plus la femme a duré avec le nombre d'enfants, encore tout ça, entre griffes, ça nous gêne de parler de valeur, mais ça diminue un peu. Plus elle a des enfants, moins effectivement sa valeur d'un point de vue social.
Mais il y a même des pays plutôt en Afrique centrale, qui jaugent un petit peu la valeur de cette femme en incluant dans ce calcul effectivement le mariage ou pas avant cette nouvelle union, le nombre d'années d'études, le nombre d'enfants. Enfin, on commence vraiment à marchandiser la femme, ce qui est très grave. Je vous garde en ligne quelques instants encore, Jean Jouna. Juste, on va prendre une auditrice qui souhaite témoigner, qui est au Tchad. Parfaite, bonjour.
Bonjour.
Vous avez 28 ans, vous, et vous êtes mariée depuis, allez, je vous laisse compléter, tiens.
Depuis six ans.
Légalement. Ouais. Alors, qu'entendez-vous par légalement? Vous êtes mariée civilement, traditionnellement?
Oui, civilement, oui. Mm-hmm. Civilement depuis 6 ans. Mm-hmm. Et, disons, traditionnellement, depuis un peu plus loin, quoi.
Un peu plus loin encore, mais, mais on a entendu dans le reportage consacré à la dot à l'instant de Junior, notre correspondant sur place, que la dot avait pris une place importante et parfois discordante dans les discussions avant le mariage. Est-ce que cela a été un sujet pour vous durant vos préparatifs, que ce soit pour le mariage coutumier notamment?
Cette question est vraiment pertinente parce que déjà ça fait débat dans le pays quand la jeune fille, le jeune homme s'aime et qu'ils viennent déjà voir les parents. La question de la dot fait coincer un peu parce que des fois le montant demandé est tellement exorbitant pour le jeune homme qu'il se retrouve dos au mur. Mais pour ma part, personnellement, ça n'a pas été le cas parce que déjà mon papa est très croyant. Mm-hmm. Et
c'est vrai que c'est important de rappeler que la religion ne demande en aucun cas, que ce soit les chrétiens ou les musulmans ou les autres confessions, en aucun cas de payer une somme forte pour donner en mariage leur fille.
Justement. Alors, papa a juste observé qu'on puisse juste le remettre un truc symbolique, mm-hmm, et qu'on puisse aller au mariage parce que j'ai déjà eu un enfant.
Oui, vous avez eu un enfant avant le mariage. D'accord. Et cela, est-ce que ça a posé problème au sein de la société tchadienne?
Oui, de fait, ça pose problème parce que les gens trouvent qu'il faut d'abord être marié avant d'avoir des enfants parce, mm-hmm, que ce n'est pas concevable d'avoir des enfants avant d'aller au mariage. Mm-hmm. Mais vu que l'enfant est déjà là, il fallait régulariser la situation et ce qui a été fait.
Et passer par le mariage, donc. Parfait, oui, ça fait 6 ans que vous êtes mariée, peut-être un peu plus, mais en tout cas, vous êtes dans une relation depuis un petit moment. Est-ce que ça reste positif, cette union? Bon, on sait qu'il y a des difficultés, mais vous vous sentez épanouie aujourd'hui?
Non, il y a toujours eu des hauts et des bas dans le mariage, mais moi, ça va, parce que déjà, quand il y a un souci, je me ressens pour ce mes enfants. Et c'est ce qu'on nous demande toujours de faire en Afrique, dans notre culture, dans notre éducation. Quand ça ne va pas avec monsieur, il faut se recentrer sur les enfants, regarder où est-ce que tu voudrais que tes enfants aillent et tu regardes après la vie en rose. Donc je crois que ça n'a pas été tellement difficile. J'ai vu, il y a eu des côtés positifs, tout comme il y a eu du négatif dans le mariage. Mais on essaie toujours de serrer la ceinture.
Il faut serrer la ceinture et tenir bon. Chez nous, au Sénégal, on dit mouigne. C'est un petit peu un mot pour résumer tout ce mariage. C'est supporter de nombreuses choses pour montrer que nous sommes une femme forte. Merci infiniment, Parfaite, pour ce témoignage. Et puis, bonne continuation à vous.
Merci à vous.
Jean Jeunat, on arrive déjà à la fin de cette émission. Alors, on a 30 secondes pour que vous nous donniez le mot de la fin pour conclure. Et bien entendu, on va poursuivre cette émission d'ici la semaine prochaine. Mais avant, donnez-nous quelques mots de la fin, Jean Jeunat.
Le choix qu'on doit porter sur son conjoint doit se focaliser essentiellement sur l'amour parce que c'est ça qui va loin. Et de ne pas chercher à tarifier en fait cette relation conjugale d'une manière ou d'une autre, que ce soit chez l'homme ou bien chez la femme. C'est de privilégier le sens de vivre ensemble. Est-ce qu'on peut aller loin? Et c'est véritablement ça qui permet d'aller loin jusqu'à la vieillesse. Mais lorsque le mariage se fonde sur le matériel, sur l'ostentation d'une manière ou d'une autre, ça frise et ça va amener en tout cas à des petits soucis par la suite et c'est ce qui amène des accidents de parcours et le divorce intervient malheureusement. Alors qu'on a bien commencé. Et le bonheur se trouve dans l'être qu'on aime.
C'est bien dit, effectivement, Jean Jeunat, l'amour, c'est le socle de la vie et c'est important, c'est même la base pour se marier. La semaine prochaine, toujours avec vous et ainsi que d'autres auditeurs et auditrices, nous parlerons du célibat et de la pression sociale qui va avec. D'ici là, chers auditeurs et auditrices, merci de nous avoir suivis. On continue de discuter sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas, contactez-nous sur Facebook, Instagram et WhatsApp. Merci à toute l'équipe d'Alors on dit quoi. Obnon Hagongol, à bientôt.
Orient et